Eh bien, je vais tenter de ramasser toutes vos questions afin de les poser au Dr Carl Weiss, microbiologiste, à la lumière aussi de ce qu'on a pu voir hier. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Je vais poser la même question que j'ai posée à Dr Drouin tantôt. L'utilisation d'un masque pour l'ensemble des citoyens, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que si vous en avez de façon absolument illimitée, qu'il n'y aurait absolument aucune limite à en utiliser, ça pourrait être un outil additionné à d'autres outils. Il ne faut pas oublier qu'avec du confinement, de la distanciation sociale, le fait qu'on veut garder les gens fermés à l'intérieur et qu'on minimise les déplacements, on devrait avoir moins besoin d'un masque. Comme je vous dis, ce n'est pas un outil négligeable, c'est un outil à l'intérieur d'un autre outil. Mais dans le contexte actuel, on n'a pas, je dirais, la capacité de faire ça, donc il va falloir trouver d'autres solutions.
OK. En fait, je vais vous poser la question qui m'arrive, là, beaucoup des gens du réseau de la santé. On me donne des exemples dans les hôpitaux où avant on testait les patients avant qu'ils soient opérés, pratique qu'on ne fait plus, qu'on réserve les masques de protection importants, la meilleure protection, si on veut, à des opérations et à des professionnels qui travaillent près des voies respiratoires. Alors donc, pour d'autres chirurgies, il n'y a pas de test. Il y a une inquiétude comme si il n'y avait pas un certain triage qui était fait avant de les laisser entrer à l'hôpital.
Non. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui confondent beaucoup de choses. La première chose, c'est que on ne teste pas les gens asymptomatiques pour savoir s'ils sont porteurs ou pas à cette étape-ci avant une chirurgie. C'est pas utile de faire ça dans le contexte actuel. C'est pas une priorité. Deuxièmement, les chirurgies au Québec, actuellement, on a réduit considérablement le nombre de chirurgies, ce qui est totalement adéquat pour pouvoir se concentrer sur les urgences et sur des chirurgies qui sont triées. Il y a un comité qui est présidé par mes collègues chirurgiens qui a émis des recommandations et il y a le comité des infections nosocomiales du Québec qui a aussi émis des recommandations par rapport aux salles d'opération. Donc, on essaie de prioriser les chirurgies pour ce qui est urgent, pour sauver du matériel d'équipement chirurgical, des masques, etc. Et il est inutile de tester, je vous dirais, avant d'opérer les gens pour savoir s'ils sont porteurs du virus de la COVID-19 ou pas. C'est pas du tout la stratégie qui devrait être employée. Donc, de ce côté-là, honnêtement, il n'y a pas un problème majeur, si ce n'est le fait qu'on est obligé de passer à autre chose, parce que là, on est dans une situation d'urgence et on ne peut pas être dans une situation de routine de chirurgie comme on faisait il y a 3-4 mois.
Et je dirais même il y a 3-4 jours, non? C'est-à-dire que...
Je dis 3-4 mois, ça aurait pu être, disons, il y a un mois, mais 3-4 jours, ça avait déjà changé.
Mais c'est parce que, sur le plan, j'imagine, scientifique, là, c'est sûr que vous avez raison, mais dans la perception, puis je vous dis, là, de gens qui sont première ligne, qui sont inquiets d'être en contact avec des gens qui sont potentiellement contaminés et qu'on ne teste pas.
Oui. Alors, regardez, là, il faut que les gens comprennent un petit peu le grand tableau stratégique où est-ce qu'on est. On est dans une phase au Québec, comme ailleurs dans le monde aussi, où on est dans la phase d'absorber le choc. On est dans une position défensive par rapport à ce virus-là. Donc là, notre objectif, c'est d'absorber le choc, de minimiser les impacts du virus, de minimiser la mortalité. Au Québec, on a un problème important puisqu'on commence à avoir des problèmes dans les centres de soins prolongés. Et là, c'est vraiment important que les gens qui vont travailler respectent les mesures pour protéger nos aînés le plus possible, pour pas qu'on ait une situation qui se répète comme celle qui a eu lieu en Italie ou en France. Donc, il faut qu'on utilise tous les moyens du bord actuel pour limiter la casse dans notre environnement. C'est là où on est rendu actuellement. Et il faut utiliser nos masques de façon parcimonieuse. Quand il faut les utiliser, c'est important, on va leur donner, il n'y a pas de problème. Quand c'est des opérations qui impliquent ou des techniques qui impliquent ce qu'on appelle des aérosols où il y a un risque d'aérosolisation, oui, il faut utiliser des N95, mais les gens n'ont pas besoin d'utiliser des N95 partout. Par contre, oui, vous avez vu que même moi, dans mon urgence à l'hôpital général juif, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a instauré le port du masque universel à cause de notre épidémiologie qui était extrêmement importante. Vous savez que Montréal était un point très chaud de la COVID-19, pas juste au Québec, mais au Canada. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. La deuxième phase, c'est pendant cette phase-là qu'on prépare, ça va être notre contre-attaque, si vous voulez. Et là, ça veut dire qu'actuellement, tout le monde, le Canada au grand complet, est en train de tourner à 180 degrés pour se mettre dans un mode de guerre et se mettre à fabriquer, à importer, à essayer de finalement Un peu comme à la guerre, les gens n'étaient pas préparés, puis là on est passé à une étape durant la Seconde Guerre mondiale où toute l'industrie s'est tournée vers une industrie de guerre, ben, c'est ce qui est en train d'arriver, où là on va passer à une étape où on va être capable d'avoir des masques, des ventilateurs, des gels alcoolisés, des médicaments. Il ne faut pas oublier qu'il y a des médicaments qui risquent d'être en pénurie également sur la planète, donc il va falloir en produire localement, et c'est cette phase-là qu'il faut préparer maintenant pour pouvoir être prêt dans 6 semaines, 8 semaines, etc. Donc, il y a des masques, il n'y en a pas des tonnes. Il va falloir les utiliser de façon parcimonieuse. On espère avoir des livraisons de masques. Mais les travailleurs de la santé, quand ils ont besoin d'en utiliser pour des cas précis, ben, ils vont devoir les utiliser. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus, je vous dirais, aller à l'autre extrême et dire on va mettre des N95 à tout le monde tout de suite pour tout.
Alors, okay. OK. Juste une parenthèse. Je comprends qu'on fait face là à quelque chose hors du commun, jamais vu. Mm-hmm. Mais vous avez été un ici, en tout cas, sauf erreur, des premiers, peut-être à sonner l'alerte. Même il y a plusieurs années, je me souviens de déclarations de microbiologistes sur la scène internationale qui disaient « il faut se préparer, on ne sait pas quand, mais ça va nous arriver un jour ». L'idée, c'est pas de faire des bilans prématurés. Mais beaucoup de gens se demandent, est-ce que, puis pas que le Québec, là, est-ce que les gouvernements à travers le monde n'ont pas été, disons, imprudents?
Alors, la réponse est tout à fait, vous savez, c'est une étape d'impréparation, comme certains gouvernements à la veille de la Seconde Guerre mondiale ont été imprudents, comme d'autres à la veille de la guerre de 14-18 ont été imprudents, et ils ont dû apprendre de leurs erreurs après ça, et il n'y a pas personne à blâmer là-dedans. Il y en a qui se sont préparés mieux que d'autres, l'Allemagne en est un exemple, probablement pour des raisons historiques et culturelles, mais c'est sûr qu'il va falloir tirer des enseignements de tout ça et se préparer à l'avenir. Et je suis certain qu'une fois que tout ça va passer, on aura une approche très différente de la vision en maladie infectieuse et de la préparation qu'on doit avoir. Et oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de gens dans mon domaine qui, depuis des années, ont dit ça. Vous avez même vu que Bill Gates avait déjà sorti ça avec beaucoup de justesse et beaucoup de vision il y a quelques années. Et on avait eu un goût de ça. Vous savez, c'est pas comme si on n'avait pas été confronté. Le H1N1, ça a été, disons, une petite répétition. Le SRAS dans le passé, ça en a été une autre. Et Ebola, ça nous a fait un petit peu peur. C'est pas la première fois qu'on est confronté à ça. Mais là, je pense que le choc a été tellement grand que le monde qui va venir va être différent de celui qu'on a connu sur beaucoup d'aspects. Là.
OK, dernière question. Je lisais ce matin dans des journaux européens des médecins qui prétendaient que le test actuel de détection est plus ou moins solide, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de négatifs qui sortent, mais que ces gens-là sont peut-être positifs dans le sens où il y a un taux, semble-t-il, de fiabilité qui est moins élevé.
Non, alors au Québec, en tout cas, là, les tests qu'on a ici, il faut le souligner, là, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais il y a beaucoup de gens qui ont été des héros cachés dans toute cette histoire-là. Et tous les gens qui ont travaillé sur les tests au Québec, là, ont fait un travail absolument colossal. Et la fiabilité de nos tests au Québec est très bonne. Il est possible que si vous avez zéro symptôme, et là, il y a des gens qui vont peut-être aller tricher pour se faire tester, pour savoir si par hasard ils seraient porteurs en allant inventer des symptômes, on en a vu, et ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont tester négatif parce qu'ils sont pas malades. Alors, il faut faire attention, mais le test est fiable. C'est un test qui est bien fait, surtout au Québec. Je pense que la population québécoise peut être très rassurée. La qualité des tests qui est offerte au Québec là, est top-notch à l'échelle planétaire. Donc là-dessus, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter.
Parfait. Merci beaucoup, Dr Weiss. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Dr Carl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses.